Eh bien bonjour à tous nos auditeurs d'Aligre FM, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui, Michele, quel
bonjour,
plaisir,
Nathalie.
Quel bonheur.
Pour moi aussi.
Comment vas-tu dans cette, virée parisienne, hein? Oh, tu as quitté ton Italie natale pour venir exprès faire une émission en direct sur Aligre FM.
Ah oui, quel bonheur, ouais. Quel bonheur. De se retrouver aujourd'hui à Aligre FM.
Super,
trop bien. Et toi, Nathalie, ça va ?
Super, magnifique. Et puis alors, tout de suite, j'en profite parce que j'ai pas de tête, messieurs, dames. Je voudrais remercier à la technique Armand Gury et Damien Gissin. Et je serai amené à répéter leurs noms et leurs prénoms car on n'est rien sans nos techniciens adorés qui nous permettent d'avoir une bonne écoute, etc. Et puis de placer nos voix. Alors, Aligre FM 93.1, philosophie au présent, un partenariat. Qui dure maintenant depuis 6-7 ans, c'est ça,
ouais.
Et on est ravis. Et aujourd'hui, Michele, une compagne, une amie, italienne aussi, anthropologue, que tu as eu l'idée d'inviter, et on va faire une super émission.
Exactement,
aujourd'hui.
Nathalie, on va découvrir quelque chose quite something, tu sais,
oui.
Les Anglais.
Oui.
Et alors, j'ai l'immense plaisir d'introduire... notre invité d'aujourd'hui, bienvenue Alphonsina Bellio.
Bonjour et merci beaucoup Michel et bonjour Nathalie et bonjour aux auditeurs.
Merci d'être là avec nous aujourd'hui Alphonsina. Pour parler, on va essayer un petit peu de donner envie aux auditeurs de connaître ton œuvre. On est désolé, on se tutoie, mais on se connaît. Et Michel et Alphonsina sont des amis, donc on va pas faire d'hypocrisie.
Hein, non,
c'est pas la peine de prendre un masque. Hein.
Non.
On déteste les masques.
Voilà.
Alors, chère Nathalie, je vais dire au moins quelques éléments sur notre invité
bien
d'aujourd'hui.
Sûr, il faut que les auditeurs après ils pourront googliser, aller voir tout un tas de choses et acheter des livres et lire des articles.
Alors, notre cher invité aujourd'hui, Alphonsina Bellio, est directrice d'études à l'École pratique des études de Paris. Elle est titulaire de la chaire Anthropologie religieuse de l'Occident contemporain. Et depuis janvier 2021, elle est aussi la directrice d'un groupe de recherche très important, parmi les groupes les plus importants, plus grands que nous avons en France, sur la question des religions, qui s'appelle Groupe Société Religion Laïcité, qui est à Paris, unité mixte de recherche entre le CNRS et l'École pratique des hautes études. Et je le mentionne aussi, parce que c'est une institution très importante, cher Alphonsine, on a dit qu'on te voit, bien sûr, tu es membre correspondant de l'Institut d'études avancées de Nantes. Hein. Tu as été chercheuse résidente de la promotion 2016-2017.
Tout à fait.
Ok, super. Alors, on travaille ici à Philosophie et Présent pour nos invités. Et alors, peut-être on peut rappeler quelques publications importantes d'Alphonsina Bellio. Nathalie, tu veux le mentionner?
Je te laisse faire, je reprendrai la parole après.
Vous trouvez toutes les références, comme d'habitude, sur notre page d'Instagram, et pas seulement d'Instagram, aussi sur la page de Radio Aligre FM.
Et tu nous donnes des références en italien alors? Parce qu'il y a des titres en italien.
Alors disons, il y a...
Oui, parce que tu écris Alphonsina en italien. Et
les deux.
Oui, les deux, et en français aussi.
J'écris le plus souvent en français, mais évidemment, je publie aussi en italien, en anglais. Il y a un article paru en portugais, en hongrois,
D'accord.
On est international complètement. On est international complètement. Alors, quelques titres, quelques publications que nous avons aussi la chance aujourd'hui, chère Nathalie, de lire pour préparer cette émission. Alors, je voudrais au moins rappeler Au-delà du silence, la parole des femmes voyantes, Petit patrimoine calabré, qui est dans un ouvrage paru chez La Matin en 2008. Et donc, il y a quelque chose qui nous parle beaucoup, la question du silence. Mais on va répondre seulement, j'ai fait une petite liste, pardonne-moi. Alors, Mila Kuluzi et Ziruzi, moi je viens de Milan, le calabré c'est un peu difficile pour moi. Conflit dans le panthéon agropastoral calabré, ça fait 2018, cahier d'études religieux. Et parmi aussi les autres, je voudrais mentionner au moins féminité prophétique. Féminité prophétique, transformation du non visible de l'allemand euro-méditerranéen qui est paru dans l'annuaire de l'École pratique des études 2021-2022. Et dernièrement, comme ça après on va commencer à un peu à vont à poser des questions. Lutte pour la terre et lutte de classe, qui est paru dans l'Idée libre, juin 2023. Donc, nous sommes vraiment quelque chose de récent et tout à fait, comment dire, dans l'actualité.
Oui, puis moi, je poserai quelques questions sur un article que j'ai adoré, « Les temps du devenir femme, corps assignation de genre et faits religieux », voilà, dans un ouvrage collectif publié à l'Harmattan, mais j'y reviendrai sur cet article sublime.
Alors Nathalie, je commence à poser une petite question, comme ça on va connaître notre cher invité aujourd'hui. On est bien évidemment ravis, le 3, mais ici à Radio Lire, mais surtout à les opérations présents, on s'amuse.
Oui.
Non
oui.
Et on a la joie de partager un moment ensemble.
Tout à fait.
Non, ce qui en fait aussi au CIPH, rappelons-nous, notre programme est un partenariat, comme tu as dit,
avec le Collège international de philosophie
depuis plusieurs années.
Tout à fait.
Alors, cher Alphonsine, cher ami, alors, parle-nous de ton parcours. Parce que quelque chose qui m'a toujours étonné, dont tu es anthropologue, mais tu es un anthropologue un peu particulière, disons. Parce que si tu es un anthropologue du religieux,
alors,
ces croisements, ces rencontres, c'est quoi, pourquoi, dis-nous.
Alors, disons que le mien est un parcours qui arrive à l'anthropologie, mais tout en partant de ce que tu connais bien en Italie, le cursus classique. Donc, après un lycée classique, des études approfondies en latin, grec, qui ont continué aussi à l'université. Et à un moment donné de ma vie, je me suis passionnée à l'anthropologie et je me rendais compte que tout en travaillant sur l'anthropologie, en fait, c'était souvent sur des formes du spirituel et du religieux. Mmh. Et à un moment donné, ça est devenu, disons, ma spécialité principale, tout en travaillant sur d'autres questions qui concernent, bien évidemment, des questions sociales. Mais maintenant, vraiment, ma spécialité se concentre autour des faits religieux entre religion, genre et politique.
Ouais, voilà, ça se sent très bien. Moi, il y a une question qui me vient. Voilà, tu dis que tu as fait des études d'un certain type, classiques. Est-ce que tu as des auteurs qui sont des références pour toi dans tes recherches anthropologiques? Qu'est-ce qui a finalement orienté ton parcours pour devenir quelqu'un qui écrit en anthropologie?
Alors, disons que pour ceux qui en est du côté italien, il y a un auteur incontournable, Ernesto De Martino, donc grand anthropologue, philosophe et spécialiste des faits religieux, de l'histoire des religions. Et chez De Martino, c'est vraiment un maître à penser parce que dans ses œuvres, dont une, je l'ai traduite avec des collègues en français, c'est Mort et pleurs rituels, morte et pianto rituale. Dans ses œuvres, en fait, il a une approche aux faits religieux qui travaille dans la longue durée. Donc, déjà chez De Martino, d'un côté, vous avez l'actualité, le politique, la société contemporaine, mais en même temps, ce regard de longue durée à partir de formes et pratiques qu'on retrouvait dans le monde gréco-latin, par exemple.
Est-ce que ce que tu appelles la longue durée, est-ce que c'est une référence à l'école des annales en histoire?
Tout à fait, absolument, voilà. Parce qu'en plus...
Est-ce qu'on peut rappeler aux auditeurs ce qu'est le temps de la longue durée, très rapidement?
Le temps de la longue durée, en fait, c'est cette temporalité qui explique le présent à partir d'un long passé. Par exemple, tu cites les annales, mais je cite aussi cette anthropologie qui s'est développée à Toulouse, dont Daniel Fabre a été mon maître direct. Je fais un diplôme d'études approfondies avec lui. Donc, cette idée que pour mieux comprendre le présent, on a recours à des phénomènes qui se sont développés au fil du temps, mais en considérant aussi les aspects marginaux. Donc, ce n'est pas que l'histoire
des
grands personnages, c'est vraiment l'histoire du quotidien.
Ce n'est pas l'hegelianisme dont en philosophie on connaît bien.
Non. Et donc, je travaille beaucoup à partir aussi de la micro-histoire.
Oui, d'accord. C'est beaucoup plus clair.
Fascinant, oui. Fascina, dis-nous, la micro-histoire, c'est quoi?
Alors, je vous donne un nom j'adore, c'est Carlo Ginzburg.
Ah, oui.
Les études de Carlo Ginzburg, en fait, nous apprennent ces petits phénomènes apparemment isolés, marginaux, qui deviennent cruciaux pour comprendre tout un observatoire de faits, de situations, de pratiques, de croyances de longue durée, justement.
Oui. Alors, une question, puisque ta recherche, ton travail, ton écriture, ton travail d'anthropologue, travaille la question du genre et de la religion. Qu'est-ce qu'on entend par religion ? Qu'est-ce que... Parce que, bon, c'est vrai que j'ai lu ce que tu as écrit, et c'est très étonnant, ton rapport au religieux. C'est intéressant pour aujourd'hui, parce qu'on oublie un petit peu le sens premier de religion. Mmh. Alors, qu'est-ce que... Voilà, est-ce que tu portes une définition de la religion ? Est-ce que tu construis un champ autour de ce que tu appelles le religieux ? Et quel est ce champ ?
Alors déjà, il n'y a pas l'unanimité parmi les chercheurs autour de la notion de religion. Et en plus, c'est une notion débattue au fil du temps. Et je pourrais évidemment plonger dans deux éléments étymologiques qui remontent déjà au monde de latin, donc religare et religere.
Oui.
D'un côté, donc, relier l'humain à ce qui va au-delà de l'humain, et de l'autre, religere, c'est comprendre. Oui. Et interpréter avec des repères qui ne sont pas de ce monde.
Oui.
Et pour ce qui me concerne, en fait, je travaille sur les faits religieux et sur les spiritualités en tant qu'expression de l'humain en société, mais en relation avec ce quid qui dépasse l'humain, et donc sur ce que j'appelle le non-visible. Mmh. Toutes ces figures, ces êtres dont vous avez pu voir des exemples dans mes articles, mes textes, qui, en fait, pourquoi je ne dis pas invisible ? Parce que le mot invisible, avec l'alpha privatif grec, signifie quelque chose qui ne peut pas être vu et jamais. Tandis que, en travaillant avec les acteurs que j'interviewe, en travaillant aussi sur la mémoire orale, les anges, les morts, les défunts, etc., sont considérés parmi les acteurs auxquels ils apparaissent, non comme invisibles, mais en fait, ce sont des entités que, dans certaines circonstances, certaines personnes peuvent voir, peuvent avoir entré en relation avec eux, avec plusieurs sens, pas que la vue. Et donc voilà pourquoi je préfère éviter la notion d'invisible en parlant de non-visible, cette non-visibilité circonstancielle qui devient visible, donc.
Voilà, tout à fait.
Michael. Alors, à ces propos, j'ai un passage, je voulais lire justement, féminité prophétique, et tu vas nous expliquer, transformation du non-visible.
Oui.
Et chers auditeurs, on n'a pas préparé ça, mais des choses magnifiques, ça arrive toujours ici, dans ces studios. Parce que, je vais le lire, vous allez bien comprendre. L'histoire du monde euro-méditerranéen est peuplée de figures féminines, qui au fil du temps, et selon de nombreuses variantes, ont présentifié des formes spécifiques de médiation avec le non-visible. Transcendantes ou immanentes, ces représentations sont déclinées sous de nombreux modes, mythes, littérature, arts, pratiques rituelles, mais aussi par le biais des personnages, véhiculant à leur manière le contenu culturel de leur société. Et au sein de cet ample paysage, le féminin est souvent construit en tant qu'élément symbolique et mythopoétique primordial. Alors je trouve que là, on trouve tous les éléments condensés de ce que Alphacina est en train de nous dire. Mais je te prie, est-ce que tu peux nous expliquer bien ce mélange de transcendance, immanence, mais aussi ces figures féminines qui est si centrale dans l'analyse que tu fais ?
Tout à fait. Alors, afin d'expliquer déjà cette relation entre transcendance et immanence qui pour moi ne sont pas, au moins dans mes terrains, ne sont pas deux éléments opposés, au contraire, qui se retrouvent, je pars du corps. qu'est-ce que c'est qu'un corps féminin? Un corps féminin, c'est de la matière cosmique. Un corps féminin, c'est de la matière à pétrir. Mmh. Un corps féminin, là, dans les différentes cultures, je pense surtout aux cultures qui se sont développées tout au long de la durée méditerranéenne, d'une longue durée méditerranéenne, ce corps féminin, en fait, présente des éléments d'ouverture et donc incarne l'autre. Mais quand je parle d'autre, c'est une altérité qui n'est pas au sens de la psychanalyse, par exemple. Non, non, c'est vraiment dans les cultures que j'ai pu analyser, et en particulier à partir de l'Italie du Sud, mais aussi après cette enquête s'élargit à l'Europe méridionale, l'Europe latine. Et en fait, cette altérité est représentée par ces figures, comme je disais, du non visible, c'est-à-dire transcendante et immanente, des morts, des anges, des figures divines, des figures qui se rendent présentes, dont la voix et les messages sont transmis aux autres, à la communauté des vivants, via ces corps féminins qui s'ouvrent, souvent suite à des souffrances, parce que la question de la maladie reste un élément important, la maladie, un deuil, l'élaboration d'un deuil, la souffrance ouvre le corps. Et alors, pourquoi je parle de corps féminin? Il n'y a pas que des femmes qui communiquent de manière spontanée, c'est-à-dire sans que ce soit provoqué, comme par exemple le spiritisme, avec ces mondes non visibles. Mais souvent, dans les terrains que j'ai pu réaliser, dans les analyses, les études que j'ai pu réaliser, les figures du masculin sont des figures quelque part des marges. Donc pour cela, pour ces aspects-là de marginalité, ce sont des figures reliées au féminin en tout cas.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
C'est très intéressant, mais moi de ce que j'ai lu de ton œuvre, j'ai vraiment eu l'impression qu'en tant qu'anthropologue, tu traitais le religieux finalement comme immanente à la vie des hommes. Enfin, voilà, on sort finalement un petit peu de la dualité assez classique de la transcendance et de l'immanence, du social et du divin qui serait au-dessus. Il y a, en tout cas dans ce que j'ai pu lire, un travail de ta part pour montrer que le religieux, et j'ai beaucoup aimé ton rappel du religare, de relier les hommes entre eux, c'est ça que veut dire religion. Il se trouve que désormais, on entend ça par du monothéisme, mais on voit bien d'ailleurs même que dans le monothéisme, il y a on pourrait dire des variations du monothéisme, des variations de la hiérarchie chrétienne, par exemple, ou catholique. Mais on a vraiment l'impression dans tes travaux qu'en tant qu'anthropologue, tu montres à quel point le religieux, au sens du religare, est presque même d'une relecture, du religare, c'est-à-dire il y a une réinterprétation au quotidien de ce qu'on appelle religion et qui vient structurer alors là les rapports de genre pour le coup. Voilà. Donc c'est un peu ce travail-là que je trouvais très intéressant, de considérer que la religion est partie prenante de la vie des hommes et qu'elle fait finalement humanité ou société.
Absolument. Et en plus, ce travail, c'est important, la genèse de cette recherche remonte à des faits que j'ai pu reconstruire, pas observer, parce qu'il s'agit de générations qui m'ont précédé d'un certain temps, d'un certain nombre de décennies. En fait, j'ai commencé à travailler sur des corps féminins de femmes qui, dans des conditions, comme je vous disais tout à l'heure, spécifiques, suite à des deuils, des maladies, etc., à un moment donné, vivaient une expérience de type spirit, d'emprise spirit, ce que De Martino appelle « être agi par ». Donc le verbe « agir » qui devient passif.
Oui, tout à fait.
Et donc, ce sont des femmes qui étaient habitées par les morts, par exemple. Et en fait, leur corps devient un corps ouvert. En même temps, ces mêmes caractéristiques, on les retrouve dans une culture, à la fois celle de l'Italie du Sud, mais dans plusieurs contextes, dans la longue durée méditerranéenne, dans une culture qui a beaucoup, qui s'exprime beaucoup par le matériel, le toucher par exemple. En fait, il y a des études que j'ai même menées dans d'autres, disons, sur d'autres aspects du rapport religieux. on n'est pas dans un contexte de transcendance, dans un contexte dans lequel l'humain n'a pas besoin de l'image, par exemple. Mmh. La statue, l'image, vous l'avez peut-être vu dans l'article Miraculosi et Zerosi sur le panthéon agropastoral calabrais, ou bien dans d'autres articles que je peux écrire sur les ostensions, etc. Mmh. L'image n'est pas juste une représentation. L'image devient une véritable épiphanie. Mmh. Et en étant une épiphanie, l'image sacralise les lieux. C'est pourquoi, pour ces raisons-là, l'importance, par exemple, des processions. Il y a quelques jours, le 5 février, à Catane, encore une fois, se tenue l'une des plus grandes processions au niveau mondial, celle de Sainte Agathe, mmh. avec des participations qui arrivent tous les ans, dans la semaine, à 2 millions de personnes. Mais ce sont des manifestations du religieux qui ont besoin d'être concrétisées par le toucher, par la vue. Donc, il n'y a pas vraiment de... Bien sûr qu'il y a une transcendance, mais c'est plutôt l'aspect immanent qui, en plus, se traduit dans l'idée de faire société, tout à fait.
Tout à fait. Et alors, ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'on a, on ressort en te lisant, on sort de cette opinion, en tout cas, que la religion, le religieux, n'aurait affaire qu'à du spirituel. Ou en tout cas, cette spiritualité, elle est complètement incarnée dans des pratiques, dans des corps, oui. Qu'elle est précisément complètement immanente, et je dirais même, elle est rejouée, malgré les églises, malgré les dogmes, elle est complètement rejouée, reprise. Tout ton travail sur, j'allais dire, le rapport des villages, de villageois avec ce qu'ils font de la religion, et notamment par rapport au corps de la femme, est pour cela très très éclairant.
Tout à fait. Et en fait, maintenant que tu as évoqué la question de l'Église ou des Églises, parce que bien sûr, je travaille oui. plutôt sur une Europe de matrice, disons, chrétienne catholique.
Oui, oui, oui.
Et c'est un aspect des mondes des religions
tout
et des
fait.
Faits religieux. En même temps, un élément important qui surgit, surtout à partir de Vatican II, il y a eu vraiment, et en particulier en Italie du Sud, en Italie en général, il y a eu un engagement des autorités ecclésiastiques afin d'attendre, d'éduquer les gens à une religiosité plus spirituelle. Mmh. Mais la raison fondamentale est cet ancrage au corporel, au matériel, à ces corps, les saints par exemple, les saints qui sont aussi vénérés, voire idolâtrés, selon
oui,
certains
oui,
critiques.
Oui, oui.
C'est-à-dire, ce sont des mondes, les mondes méditerranéens, dans lesquels l'immanence est encore une caractéristique fondamentale, et c'est la raison, l'une des raisons pour laquelle je parle de religiosité hors norme,
oui,
divergente.
Oui.
Parce qu'en fait, il y a cette opposition entre les monothéismes officiels, avec
fait.
Ce parcours du point de vue des autorités, donc de l'Église catholique, un parcours de plus en plus spiritualisé, tandis que les gens restent ancrés à des formes qui se développent bien en deçà et au-delà des parvis des lieux de culte officiels.
Tout à fait, une mystique, une forme des formes de mystique en fait. Hein,
tout à fait.
Voilà.
Donc
tout
nous voyons pluralité, multiplicité, donc c'est un univers, c'est un plurivers,
oui.
hein, on peut dire vraiment
oui.
la Méditerranée. Et aussi, j'aimerais bien, Alphonsine, que tu nous dis quelque chose surtout sur ces enjeux politique qu'il y a dans cette perspective que tu as essayé de proposer sur les corps, sur les féminins, sur les religieux. Parce que, je ne sais pas, on discutait aussi avec Nathalie avant, c'est extrêmement fascinant, mais il y a quelquefois quelque chose qui nous échappe, des enjeux qui sont vraiment, qui sont là. Par exemple, bien sûr, nous avons parlé du corps, mais aussi du genre. Avant
oui,
avec,
tout à fait.
Alors, quels sont les enjeux politiques dans tous ces discours que tu nous proposes?
Alors, tout d'abord, je me suis rendu compte, en commençant très simplement en faisant des ethnographies, donc des enquêtes de terrain, parlant avec les gens, en observant, etc. Je me suis rendu compte au fil du temps que l'expression du religieux ou du spirituel est toujours enchevêtré d'éléments politiques. Mmh. D'éléments politiques forts, parce qu'il y a des discours qui sont, des formes de construction de discours qui sont à la base. Par exemple, quand je parle de ces femmes calabraises des années dont les, disons, les dernières ont vécu dans les années 1960, des femmes qui parlaient aux morts de manière spontanée, suite, comme je vous disais, à des épisodes plutôt traumatisants. Alors, il s'agit d'un phénomène, on pourrait dire un petit phénomène marginal dont la portée n'a pas si, toute cette importance. Quand on y travaille avec une véritable volonté de décrypter ce que ce phénomène est dans la société en contextualisant, mais aussi en contextualisant dans la longue durée, en comprenant pourquoi il y a des enjeux liés, par exemple, aux formes prophétiques méditerranéennes, donc des figures comme les Pythies, les Sibylles, qui sont évoquées, attention. Dans ces cultures-là, vous trouvez encore des toponymes, mais vous trouvez encore des légendes, par exemple, mariales, qui opposent la Vierge Marie à la Sibylle. Donc, vous voyez, ces aspects-là nous montrent qu'un élément apparemment marginal devient un observatoire intéressant de toute une série de dimensions importantes telles l'assignation genrée. Oui. Parce que, par exemple, ce dipôle Vierge Marie d'un côté, donc le modèle de la construction de la jeune fille bien, de la femme bien. Oui. Et de l'autre, on opposait la mauvaise femme, la loupa de Giovanni Verga, ou bien la Sibylle, mais la Sibylle des Apennins. Là, on retrouve un fil rouge de cette, cette ambivalence du féminin qui n'est pas liée simplement uniquement à la culture agro-pastorale du monde italien jusqu'aux années 1960-70 et qui est vraiment déjà dans la longue durée méditerranéenne.
Et on retrouve le concept du micro-histoire dont tu as parlé avant. Hein.
Oui,
dans, c'est-à-dire vraiment ces figures qui parlent beaucoup, disons aussi de l'identité d'une culture. Et bon, c'est vraiment... disons, il y a énormément encore à explorer. Mais maintenant, Nathalie...
On va peut-être faire la petite pause musicale. D'abord, pour laisser à Alfonsina retrouver un petit peu sa voix. Parce qu'elle est venue aujourd'hui, elle est un petit peu malade. Et les auditeurs l'ont entendu. Donc comme ça, une jolie pause musicale. Et puis, on va redémarrer après. Pour te demander, Alfonsina, un petit peu pourquoi cette musique et en quoi ça, il y a une relation peut-être avec
tout
ton œuvre. Voilà. Merci, à tout de suite sur Allegre FM.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Ne abbiamo attraversate di tempeste e quante prove antiche e dure ed un aiuto chiaro da un'invisibile carezza di un custode. Degna la vita di colui che è sveglio, ma ancor di più di chi diventa saggio e alla sua gioia poi si ricongiunge, sia lode, lode all'inviolato. E quanti personaggi inutili ho indossato, io la mia persona, quanti ne ha subiti, arido è l'inferno, sterile la sua vita. quanti miracoli, disegni e ispirazioni.
Voilà, nous sommes de retour sur Aligre FM, on est en direct, il est 16h29 et voilà, on a une équipe technique aujourd'hui qui nous aide à faire philosophie au présent, partenariat avec le Collège international de philosophie depuis maintenant 6-7 ans, cette équipe technique de choc, Armand Gury et Damien Gissin qui nous aident à réaliser cette émission au mieux pour vous, chers auditeurs. On a écouté une magnifique musique, chers amis italiens.
Oh oui.
Alors voilà, on a le plaisir d'être avec Alfonsina Bellio. Alfonsina, cette musique, donc c'est de Franco Battiato, j'ai bien prononcé.
Tout à fait.
Voilà, voilà. Et ça s'appelle Lode all'inviolato, non ? C'est
oui,
ça ?
Oui, Lode all'inviolato.
Voilà. Et alors, pourquoi cette chanson et quelle est le rapport peut-être avec ton œuvre, avec ton travail d'anthropologue?
Alors déjà, Franco Battiato, c'est un de mes auteurs préférés. Mmh. Et en particulier cette chanson, pour des raisons à la fois biographiques et scientifiques liées à mon travail, représente la musique que j'écoutais le plus au moment où je rédigeais mon mémoire de diplôme d'études approfondies sous la direction de Daniel Fabre. Et c'est vraiment le mémoire qui a démarré l'étude, mes études sur les formes de contact avec les êtres non visibles. Donc, et en même temps, l'Ode all'inviolato, c'est la... alors, une traduction mot par mot, c'est louange à ce qui n'est pas violé, l'inviolé, mais en fait, ce qui n'est pas atteint, ce gardien universel.
Éloge de ce qui n'est pas atteint.
Atteint,
voilà.
Oui.
C'est
et c'est
ça.
Comme les neiges pérennelles, en fait.
Oui.
Cette idée d'une spiritualité qui est très présente dans l'œuvre de Franco Battiato, d'une spiritualité qui va au-delà tout en s'incarnant dans la matière et dans le corps. Donc, cette musique me semble. Et en plus, commence en disant Ne abbiamo attraversate di tempeste, nous en avons traversé de tempêtes. Et c'est exactement les tempêtes que le féminin, les femmes ont dû traverser à plusieurs étapes de leur histoire.
Tout à fait. Tu me donnes d'ailleurs la possibilité. Voilà, de revenir sur ton article « Les temps du devenir femme, corps, assignation de genre et faits religieux » qui a paru dans un ouvrage collectif, hein, c'est ça ?
Que j'ai co-dirigé, oui.
Voilà, que tu as co-dirigé avec Inga Kuzma, Audrey Thuayon de Mézy. Voilà, imaginaire du temps, religion, politique, loisirs, et qui a paru à l'Armatan. Je n'ai pas la date sous les yeux, mais les références seront sur le site.
Absolument,
oui. Voilà. Et donc, dans cet article, « Les temps du devenir femme, corps, assignation de genre et faits religieux », tu écris. Les savoirs oraux européens présentent une certaine récurrence de proverbes qui affirment l'héritage des défauts et des qualités par les parents. En français, par exemple, on connaît la version « les chiens ne font pas des chats ». Dans le texte provenant de l'Italie méridionale, cependant, des nuances spécifiques sollicitent notre attention. L'association « femme-animal », tout d'abord, est le choix significatif d'un chat femelle. Dès l'Antiquité égyptienne, ce félin est investi d'éléments symboliques que sa présence évoque et dans le spécifique vénéré en tant que manifestation divine en lien avec le culte de Bastet. Au Moyen-Âge, cette figure agile et souple importée de l'Orient méditerranéen évoquera un imaginaire chtonien et diabolique en lien avec la sorcellerie, tout en subissant de véritables atrocités. Alors, voilà comment commence cet article, voilà, qui nous met là tout de suite dans, alors, dans un travail extraordinaire, parce que tu commences d'abord par... alors, c'est très beau, en plus, de partir des proverbes pour montrer d'où vient la construction genrée de la femme. Tu as étudié ça dans une société qui est la Calabre, voilà, et tu montres comment finalement on construit, j'allais dire, des âges de la femme.
Tout à fait.
En commençant par la jeune fille. Alors moi, j'aimerais bien pour mes auditeurs, pour nos auditeurs, que tu reviennes un petit peu sur ces jeunes filles vierge, hein, alors qui s'appelle un nom que je connaissais pas. Je
les Virginelles.
Voilà. Et ça, c'est extraordinaire. Raconte un petit peu à nos auditeurs ce qui se passe dans cette société avec ces jeunes filles.
Alors, tout d'abord, la pratique que j'ai décrite, en particulier celle des Virginelles, ou on peut dire aussi Virginelles en calabrais, c'est une pratique de nos jours de plus en plus rare. On la retrouve juste dans quelques villages, mais jusqu'aux années au moins 1970, elle était beaucoup plus répandue, pas dans tous les villages de la région, mais ça existait beaucoup plus. Mmh. Et c'est une pratique spécifique, c'est-à-dire... comme ex-voto, donc pour demander une grâce à la Vierge ou pour remercier la Vierge d'une grâce, c'est plutôt la deuxième possibilité des femmes, parce que c'est souvent, c'est en fait la transmission genrée,
se fait voilà, par les femmes adultes, par la mère, voilà,
exactement, convoquée à la maison ou convoquée à la maison. Maintenant, ça se fait par exemple dans un village de la province de Cosenza ou de Catanzaro. Convoquer à la maison, on convoque 12-13 jeunes filles en âge prépubéral. Oui. D'où l'importance, on reviendra là-dessus, pour le jour de la fête de la Sainte Patronne, qui est une Vierge, donc une figure mariale. Et la journée se déroule, donc on offre à ces jeunes filles de la nourriture à partir du petit déjeuner, et après ce sera le déjeuner, mais avant le déjeuner, en fait, tout ensemble avec des couleurs, des couronnes de fleurs, rejoignent l'église et participent ainsi à la procession mariale. Donc c'est la même procession dans ce village, c'est la festa della Madonna della Buda, la fête de la Madonna de la Buda. La Buda, c'est une localité où la Vierge est apparue à une jeune fille, en fait, selon la légende de fondation de ce culte. Et ces Virginelles, en fait, incarnent âge prépubéral, un nombre de 12, maximum 13. C'est une inversion symbolique
tout
au féminin.
De la scène.
Et attention, le médium alimentaire nutritionnel qui est très important, parce que tout à l'heure, on parlait d'immanence. Oui. Dans ces pratiques qu'on retrouve aussi dans le monde grec, dans le monde latin, dans ces pratiques, le médium alimentaire est, parmi les autres, un médium important de communication avec les non-visibles.
Oui, c'est ça, j'ai beaucoup apprécié ça.
En fait, l'idée, c'est que l'humain ne peut pas se rapporter de manière directe à la divinité.
Oui.
Il y a toujours des formes culturalisées, des formes organisées, y compris donc le médium alimentaire. Donc, ces jeunes filles étaient nourries. Et maintenant, c'est un moment festif, joyeux. Vous trouvez, par exemple, dans les photos, la radio est magnifique, mais en même temps, on ne peut pas montrer des images. Vous avez, par exemple, parmi mes photos de terrain, des jeunes filles qui font les Virginelles, donc avec leur couronne, qui récitent « Je vous salue Marie », un cortège tous ensemble, et en même temps, qui portent un t-shirt de Lady Gaga. Vous voyez, c'est le monde contemporain.
Exactement, c'est ça, la question que je voulais poser, la couleur, dans le sens, c'est du blanc pour ces femmes, ce n'est pas très important. Est-ce qu'il y a... Parce que je vois énormément des croisements aussi avec...
Alors, en fait, quelques photos que j'ai retrouvées plutôt des années 50-60, il y avait du blanc, mais c'était aussi des jeunes filles ou des jeunes garçons qui étaient habillés en ange dans d'autres circonstances. Maintenant, peu importe.
Okay.
En fait, il y a vraiment une explosion de couleurs, mais ce que j'ai remarqué, que chaque petit cortège de 12 a sa propre couleur de couronne de fleurs. Donc, la procession mariale devient un moment d'une beauté aussi extraordinaire pour ceux qui en aient des couleurs, etc. Mais attention, par rapport à l'assignation genrée, les rôles dans la procession ce sont des rôles genrés. Par exemple, les jeunes filles donc, représentent le cortège de la Vierge, oui. tandis que les jeunes garçons, avec leurs pères adultes, mm-hmm. Suivent la procession avec, par exemple, l'accordéon, en faisant de la musique. Donc, vous voyez, un cortège processionnel devient une instantanée d'un apprentissage genré. Et c'est ça qui est intéressant. La transmission qui se fait, bien évidemment, de manière pas forcément consciente, mais qui se fait par le biais des pratiques.
Tout à fait. On ne naît pas femme, on le devient. Et on ne naît pas homme au sens masculin.
On le devient.
On le devient. Bon, ça, on sait ça depuis qu'on a lu Simone de Beauvoir en 1949, qui a sorti son livre en 1949. Mais nous, on ne l'a pas lu en 1949. Mais voilà, c'est, voilà, tu procèdes vraiment. Ton anthropologie est aussi une manière, pour ceux qui en douteraient encore, de montrer qu'il y a une fabrication de ce qu'on appelle une nature. Hein, la nature du féminin ou la nature du masculin, on voit bien dans ton travail d'anthropologie que c'est une fabrication. As-tu un regard critique sur toi-même en tant que chercheur, sur cette transmission genrée? Est-ce que c'est cela qui anime ton travail d'anthropologue?
Alors, plus que regard critique, je dirais un positionnement important. Quand j'ai commencé mes recherches, bon, maintenant on est en 2025, quand j'ai commencé mes recherches, je me souviens parfaitement, je suis allée voir Daniel Fabre en lui disant « Monsieur, je voudrais travailler sur des femmes calabraises, je suis femme, je suis calabraise. » Et donc, dans d'autres groupes de recherche, je n'aurais pas eu cette possibilité en ce moment-là, c'était oui. le début des années 2000. Oui. Et Daniel Fabre m'a regardé, Alfonsina, vous êtes au bon endroit, il faut lire Jean Favresada, qui évidemment j'ai lu avec beaucoup de passion. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte qu'à la fois, je menais un travail d'enquête, mais aussi un travail sur le positionnement. Oui. Sur le positionnement, tout en gardant, d'accord, un esprit critique, une distance nécessaire, mais en même temps, je me suis positionnée, je ne suis pas que autrice, je suis oui. témoin d'un monde oui. dont j'ai vécu les transformations.
Oui, tout à fait, c'est très intéressant.
Ah oui, c'est un rôle politique, on le dit,
tout à fait.
P majuscule, hein, c'est
absolument.
Sens là, hein, la licence, que c'est une façon que nous apprécions beaucoup aussi au CEPH, au Collège international oui. de philosophie, de pratiquer la recherche.
Tout à fait,
oui. Nous sommes dans ce que nous pratiquons, en ce sens-là.
Un rôle oui. politique et citoyen.
Absolument,
je ne pourrais pas être oui. chercheuse sans être une femme engagée.
Tout à fait. Et alors, ce qui est très beau, et j'en termine, mais je serais peut-être amenée, Michele, à relire un passage.
Oui,
mais ce qui est très beau, c'est qu'on a l'impression, à travers l'étude de ces femmes calabraises, finalement, que tu pointes quelque chose d'une Italie qui est en train de disparaître, qui n'est pas peut-être l'image de l'Italie qu'on a en tête spontanément, précisément, mais une Italie un peu mystique, en tout cas qui détourne, dans des régions un peu reculées, dans les derniers villages, qui détourne ce qu'on peut appeler la religion transcendante pour en faire finalement un vivre ensemble. Enfin, voilà.
Alors, on pourrait dire qu'il est en train de disparaître, mais mes études montrent le contraire.
Ah
dans le sens que de plus en plus, justement, mes recherches actuelles de ces dernières mm-hmm. années sont sur les hors normes. De plus en plus, en fait, il y a des revendications identitaires très fortes dans ces mêmes communautés et dans lesquelles, en fait, ces pratiques deviennent aussi des pratiques de type patrimonial, de pratiques de retour, donc le lien qui se fait après la diaspora. Donc,
oui.
Parce que ce sont des, par exemple, à l'occasion de ces processions, de ces pratiques, de ces fêtes mariales, les gens reviennent même d'autres océans.
Oui.
Et plus les autorités, pour des raisons de type médical, bon, je n'entre pas dans le sujet parce que sinon ça nous amènerait trop loin, ou pour des raisons de type religieux, essayent d'interdire certaines pratiques, plus la réaction des gens est énorme.
Oui.
Donc il y a un véritable mouvement de résistance
oui.
culturelle qui est ancré. Donc, ce n'est pas l'idée de se reposer sur un passé qui ne passe pas, dirait Ernesto De Martino. C'est vraiment l'idée de faire du passé un ancrage politique fort.
Oui. Contre la, on pourrait dire contre la mondialisation, contre des modes de vie qu'on voudrait uniformiser, en fait.
Contre toute forme de normativité imposée d'en haut, en fait. Oui, c'est ça l'idée. D'accord. C'est l'idée de garder un esprit. Alors, là, pour la petite note de carnet de terrain, par exemple, quand j'interviewe des personnes qui sont liées au périmètre de crédibilité, donc de quelques mystiques prophétesses, les gens me disent, mais que l'évêque dise ce qu'il veut. Par exemple, Natu Tsaev, on l'a vu la Vierge, il n'a rien vu, lui. Donc, vous voyez, ouais, il y a vraiment cette opposition d'en bas qui caractérise aussi une forme de liberté qu'on garde. Et ce n'est pas une nostalgie du passé, c'est autre chose.
Oui, tout à fait, je comprends parfaitement.
Pensez à l'image, pardon, je reviens et après on continue, oui. Pardon, Nathalie, oui. Mais que parfois on a de l'Italie. Oh, l'Église catholique, seulement là, de la tradition. Mais regardez! Regardez, on a un prisme d'appartenance.
Absolument.
On a une vraie dialectique en ce sens-là, où l'identité méditerranéenne dont Alfonsina nous parle se mélange avec la foi, avec l'institution, avec les normes. Donc il y a vraiment un panorama, c'est pas seulement l'Italie, hein, je dis ça, mais en général, bien plus riche qu'une sorte de, je ne sais pas, abstraction. Celle-ci peut être bien politique et instrumentalisée qu'on a du religieux en ce sens-là.
C'est une hybridation constante et aussi, il faut aussi dire que en Italie contemporaine comme ailleurs, l'Église joue encore un rôle important parfois de repère dans ces quartiers difficiles de certaines grandes villes à risque comme Naples ou Palerme, où l'Église représente encore un repère pour arracher des bras à la criminalité. Donc, vous voyez, pour comprendre ce monde, il faut l'analyser avec sans a priori. C'est ça qui est important.
Tout à fait.
Parce que tout a priori empêche la connaissance, en particulier des mondes si complexes.
Tout à fait, ça empêche de bien voir, la bonne vision. Mes amis, il va falloir que je vous dise qu'il est 16h45 et que Michele prépare sa flanosophie. Et là, je regarde les techniciens qui sont là et qui préparent le joli petit jingle de Michele pour ta flanosophie.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Je vous souhaite la bienvenue dans cette petite rubrique de philosophie au présent qui s'appelle Flanosophie, la quasi-science du divertissement intellectuel. Et alors, pour prendre en charge sérieusement notre temps ensemble d'aujourd'hui, je vous propose de faire une petite expérience. Alors on fait 3, 2, 1... Non, restez bien tranquille. Il n'y a aucun souci avec notre connexion ni votre radio. Mais la dimension dont nous avons fait l'expérience il y a quelques instants, c'est bien le sujet de notre troisième philosophie sur les temps d'aujourd'hui. Voici la grande majesté du silence. Le silence est une dimension que tout philosophe, en tant que flâneur et philosophe en même temps, connaît très bien. On a peut-être besoin du silence pour nous plonger dans la réflexion, ce n'est pas très original de le préciser, mais de quel silence avons-nous besoin? Et à quelle sorte de silence la philosophie contribue constamment? Si l'on réfléchit bien, le silence est avant tout le temps qui nous permet de percevoir l'absence de quelque chose ou de quelqu'un. Mais essayons de penser plus attentivement. Le silence n'est-il pas aussi le contraire? C'est-à-dire la condition grâce à laquelle nous saisissons la présence de quelqu'un ou de quelque chose. Et si on réfléchit encore mieux, le silence est le seul mot qui, dans le même acte de le prononcer, l'acte locutoire, dirait John Austin, est détruit dans sa signification même. Si on dit silence, on tue le silence. Le silence devient alors cette impossibilité d'exprimer avec la voix la dimension qui la représente. Mais est-ce que la philosophie s'exprime toujours à travers ces silences, par ce non-dit, à travers l'espace vide qui divise une ligne de l'autre dans une page écrite? C'est avec cette question, cher philosophe, que nous abordons deux dimensions centrales dans n'importe quelle pensée, l'implicite et la latence. Il y a une différence majeure entre ce qui est implicite et ce qui est latent, car si un élément latent est toujours un élément implicite n'est pas forcément un élément latent. Et pour mieux explorer cette différence qui touche la question centrale du temps de silence, je pense toujours à mon cher Tekel, qui s'appelle Bertha. Bertha, comme le grand Bertha, le célèbre canon utilisé dans la Première Guerre mondiale. Alors, je vous laisse imaginer les raisons pour lesquelles un très joli exemplaire de chien, surtout quand elle était bébé, puisse développer la capacité destructrice d'un canon qui porte son nom. Bertha ne parle pas comme les humains. Elle a une voix très précise, très personnelle. Mais nos conversations se structurent autour d'un non-dit, d'un indicible, et cet indicible est quelque chose d'implicite qui dépend d'une situation spécifique, le fait d'être à la maison, ou en compagnie, ou avec un chien. Mais il y a quelque chose qui dépasse ce qui n'est pas encore nettement, ce qui n'est pas encore dit, pour reprendre l'Académie française, ce qui n'est pas pour être reconstruit par l'induction ou la déduction. Cette chose-là, qui dépasse toute situation, c'est justement le latent, qui n'a pas besoin d'une situation, qui n'a pas besoin d'un regard, mais il est ce qui constitue ce regard. Et entre moi et Bertha, ces dimensions latentes s'appellent amour. Et entre chaque philosophe et la philosophie, cette latence porte bien le même nom. Et si on met en discussion ce qui est latent, qui est bien plus fort et constitue ce qui est implicite, on met en discussion la relation que nous avons construite. The rest is silent. Dies, écrivait Shakespeare dans la scène 2 de l'acte 5 de son Hamlet. Il y a des silences qui crient, d'indignation, d'indifférence, de chagrin aujourd'hui. Mais il y a des silences qui chantent de plénitude et de joie. Et notre invité aujourd'hui le sait très bien. Mais moi, j'en sais rien, chef philosophe. Et alors, 1, 2, 3, bonjour du silence à tout le monde, comme me disait quand j'étais petit.
Super, merci Michele.
Merci.
Je crois qu'il faut savoir être dans le silence pour être anthropologue, non? Il faut savoir se taire pour mieux écouter.
Il faut un silence plein de regards.
Voilà.
Un silence plein de regards. Est-ce que j'ai le temps de... Parce que la magnifique réflexion de Michele m'a évoqué une figure du silence.
Oui.
Et pour revenir à la culture calabraise dont je suis partie dans mes études, il y a un personnage de la crèche traditionnelle,
oui,
qui s'appelle un cantato da stida, c'est l'enchanté par l'étoile, et dont la position importante a été présentée par un grand écrivain, Corrado Alvaro, dans ses écrits juvéniles. En fait, il dit, en gros, que tandis que tous les autres personnages sont dans ce que j'appelle une sorte de phase maniaque, des laveuses, des gens qui font la panification, etc., ce petit berger est bouche bée, le regard perdu vers le ciel, il regarde l'étoile, et c'est lui qui va au bout du mystère.
Oui. Le desiderae, voilà, désirer, c'est... Regarder l'étoile, c'est le désir de l'étoile, aller vers elle, voilà, dans un silence. Bon, alors on a une...
Charmant Sali, on
a juste le temps de faire questionnaire parationnel.
D'accord.
Des petites questions, tu n'as pas le droit de réfléchir.
Pas de réfléchir.
Ça
voilà,
vous plaît.
C'est intéressant. Bon, voilà, il faut aller très vite. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui restent mystérieuses pour toi?
La vie.
La vie, waouh, magnifique. Quelle couleur pourrais-tu associer à ton parcours intellectuel?
Le rouge.
Ouh là là, le rouge.
Ça, oui.
C'est super. qu'as-tu envie de dire à la jeunesse?
Rêver.
Ouais, super. Quel autre métier aurais-tu voulu faire?
L'astronaute.
Ah.
Mais comme Albator, un pirate des cieux.
Ah, oh là là. quel personnage auriez-vous aimé rencontrer, aurais-tu aimé rencontrer, et pour lui dire quoi?
Aujourd'hui, je voudrais rencontrer ma grand-mère, Maria, pour lui dire que je l'aime beaucoup.
Oui. Oui, superbe. Ça va bien avec ta recherche.
Oui, absolument.
Tout à fait.
Et ma grand-mère Alphonsine aussi, pour lui dire que je suis heureuse d'avoir pris un peu de sa personnalité.
Oui, c'est ça, une autre transmission.
D'avoir hérité un peu de sa personnalité épicée.
Oui, tout à fait. Quelle transmission de femme à femme. Allez, une dernière question. Si tu étais ministre de la Culture, quelle première décision aimerais-tu prendre ?
Donner beaucoup plus de financement à la recherche.
Super, merci. Bah écoute, on a été ravis, Alphonsina Bellio, voilà, d'être venue aujourd'hui. L'émission sera en podcast. Merci à la technique, Armand Gury, Damien Gissin, qui était là aujourd'hui pour Philosophie au présent. Aligre FM, 93.1. Vous retrouvez toutes les informations, cher Michele, sur www.aligrefm.org.
Et n'oubliez pas aussi Instagram. Hein.
Et merci voilà. À vous.
Merci Alphonsina Bellio d'être venue, merci à la technique, merci à Aligre FM. À très bientôt, chers
très
auditeurs.
Très bientôt.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.